Traditionnellement, les ambitions du Congrès sont plutôt modestes pendant la période qui s'étend de l'élection aux vacances de Noël, surtout à la veille d'un changement de majorité. Les perdants, déprimés, ont envie de rentrer chez eux. Les gagnants piaffent en attendant l'investiture du nouveau Congrès. À partir du 5 janvier 2011, nous allions avoir face à nous la chambre la plus républicaine depuis 1947, ce qui signifiait que je ne réussirais plus à faire passer aucune loi sans l'accord du nouveau président de la chambre, John Boehner. Et au cas où nous aurions encore eu des doutes quant à ses intentions, Boehner avait déjà annoncé que la première motion qu'il soumettrait au vote serait une révocation pure et simple de l'Affordable Care Act. Il nous restait toutefois un créneau pendant les derniers feux de cette majorité, et à mon retour d'Asie, j'étais décidé à boucler plusieurs initiatives importantes avant les fêtes et la suspension des travaux parlementaires. Ratification du nouveau traité START sur la non-prolifération nucléaire que nous avions négocié avec les Russes, abrogation de la loi DADT, Don't Ask, Don't Tell, qui obligeait les militaires LGBTQ à cacher leur orientation sexuelle, et vote du DREAM Act, Development, Relief and Education for Alien Minors, qui ouvrirait les portes de la citoyenneté à de nombreux enfants d'immigrés sans papier. Pete Rouse et Phil Schiliro, presque 70 ans de Capitole à eux deux, ont pris un air dubitatif lorsque je leur ai présenté ma liste. Quant à Axe, il a tout simplement ri. « C'est tout ? » a-t-il demandé, moqueur. Ce n'était pas tout. J'avais oublié d'ajouter que nous devions faire voter une loi sur l'alimentation des enfants, clé de voûte du plan de lutte contre l'obésité infantile orchestré par Michel. « C'est une bonne mesure, ai-je dit, et l'équipe de Michel a réussi à avoir le soutien de toutes les associations. Et puis, si on ne fait pas voter sa loi, je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi. » Je comprenais que mes collaborateurs soient sceptiques quant à la possibilité de mener à bien un programme aussi audacieux. Même si nous parvenions à rassembler les 60 votes dont nous avions besoin pour chacun de ces textes controversés, rien n'assurait que Harry Reid puisse obtenir de McConnell l'inscription de tous à l'ordre du jour dans un délai aussi bref. Pourtant, cela ne me paraissait pas complètement délirant. Presque tous ces projets bénéficiaient d'une bonne dynamique législative et avaient été approuvés par la Chambre ou allaient vraisemblablement l'être. Et si jusque-là nous avions souvent buté sur les Républicains au Sénat, je savais que McConnell avait de son côté un gros dossier coûteux qu'il voulait absolument faire passer. Une loi qui étendait les allègements fiscaux décidés sous Bush et qui allait expirer automatiquement le 31 décembre. Cela nous donnait un avantage. J'étais depuis longtemps opposé à ces mesures qui portaient la marque de mon prédécesseur, deux textes adoptés en 2001 et en 2003, qui modifiaient le code fiscal en avantageant considérablement les grandes fortunes, tout en creusant les inégalités de patrimoine et de revenus. Warren Buffett aimait faire observer que, grâce à ces lois, il avait un taux d'imposition bien plus bas, au regard de ses revenus qui provenaient majoritairement de plus-values et de dividendes, que sa secrétaire n'ayant que son salaire. Les modifications des règles de succession avaient à elles seules allégé de 130 milliards de dollars la charge fiscale des 2% de ménages les plus riches. Et ce n'était pas tout. En privant le Trésor américain d'environ 1300 milliards de dollars de recettes prévisionnelles, le gouvernement Bush avait transformé l'excédent budgétaire de l'ère Clinton en déficit croissant, un déficit que les républicains instrumentalisaient à présent pour exiger des coupes dans les allocations sociales, Medicare, Medicaid et plus généralement toute la couverture sociale. Ces allègements fiscaux étaient bien entendu une mauvaise politique, mais ils avaient aussi légèrement diminué les impôts de la plupart des Américains, et leur abrogation se révélait donc politiquement périlleuse. Tous les sondages montraient qu'une nette majorité de la population était favorable à une hausse des impôts pour les riches. Seulement même les avocats et les médecins aisés ne s'estimaient pas riches, encore moins ceux qui vivaient dans des villes chères, et après une décennie de stagnation pour les 90% de revenus les plus bas, rares étaient ceux qui souhaitaient voir leurs impôts augmenter. Pendant la campagne, mon équipe et moi avions trouvé ce qui nous semblait un point d'équilibre en proposant une abrogation sélective des allègements Bush profitant aux ménages qui gagnaient plus de 250 000 dollars par an, 200 000 pour les célibataires. Cette approche, qui faisait presque l'unanimité parmi les parlementaires démocrates, ne toucherait que les 2% des foyers fiscaux les plus riches et rapporterait environ 680 milliards de dollars sur les 10 ans à venir, qui pourrait nous permettre d'améliorer l'accès des populations les plus modestes aux crèches, à la santé, à la formation professionnelle et à l'éducation. Je n'avais pas changé d'avis sur ces sujets. Imposer davantage les plus riches n'était pas uniquement une question d'équité, c'était le seul moyen de financer de nouvelles initiatives. Mais, comme pour tant d'autres promesses de campagne, la crise financière m'avait contraint à réenvisager le moment propice pour agir. Dans les premiers temps de mon mandat, alors que le pays semblait prêt à sombrer dans la crise, mes conseillers économiques m'avaient convaincu qu'une hausse des impôts, même si elle ne visait que les riches et les grandes entreprises, serait contre-productive puisqu'elle retirerait des liquidités du circuit économique dans une période où nous voulions au contraire que la population et les entreprises dépensent. Dans une économie encore mal en point, la perspective d'une augmentation des impôts continuait à inquiéter mon équipe. Et de fait, Mitch McConnell avait menacé de bloquer tout ce qui ne serait pas une extension des allègements Bush. Dans ces conditions, la seule façon de nous en débarrasser tout de suite, comme de nombreux commentateurs progressistes nous pressaient de le faire, était d'attendre le 1er janvier sans bouger pour laisser tous les taux d'imposition revenir à ce qu'ils étaient sous Clinton. Les démocrates pourraient alors proposer un texte qui diminuerait les impôts des ménages dont les revenus étaient inférieurs à 250 000 dollars par an, mettant les républicains au défi de voter contre. C'était une stratégie tentante, mais au vu de la déculottée que nous avions prise à la mi-mandat, Joe Biden et nos conseillers législatifs redoutaient que les démocrates centristes ne se désolidarisent et que les républicains ne profitent de leur défection pour graver les allègements Bush dans le marbre. Ces aspects politiques mis à part, le problème de cette partie de cap ou pas cap avec les républicains était qu'elle avait un effet immédiat sur une économie toujours fragile. Même si nous réussissions à préserver le bloc démocrate et si le GOP finissait par craquer sous la pression, il faudrait encore des mois pour faire adopter une loi par un congrès divisé. Et pendant ce temps, les classes moyennes et populaires subiraient une baisse de leurs revenus, les entreprises limiteraient encore davantage leurs investissements, les bourses plongeraient une fois de plus, et nous finirions presque certainement avec une récession sur les bras. Après avoir examiné divers scénarios, j'ai envoyé Joe parlementer avec McConnell. Nous allions concéder une prolongation de 2 ans de tous les allègements Bush, mais à la condition expresse que les républicains acceptent de prolonger sur une période équivalente l'assurance chômage d'urgence, le crédit d'impôt accordé aux classes populaires et moyennes par le Recovery Act, Making Work Pay, et un autre ensemble de crédits d'impôt remboursables qui avantageaient les bas salaires. McConnell s'est braqué. Lui qui avait déclaré que notre objectif le plus important est de nous assurer que le président Obama ne fasse qu'un seul mandat, répugnait apparemment à me laisser dire que j'avais diminué les impôts pour la majorité de la population sans y avoir été forcé par les républicains. Je n'étais pas franchement surpris. Si j'avais choisi Joe comme intermédiaire, au-delà de son expérience de sénateur et de son habileté législative, c'est parce que je savais que, dans l'esprit de McConnell, en négociant avec le vice-président, il ne s'attirerait pas les foudres de sa base militante comme il l'aurait fait en donnant l'impression de coopérer avec Obama, ce socialiste noir et musulman. Après quantité d'allers-retours, et une fois que nous avons accepté de troquer le crédit d'impôt Making Work Pay contre des exonérations de cotisations sociales, McConnell a fini par céder, et le 6 décembre, j'ai pu annoncer que nous étions parvenus à un accord global. Sur le plan politique, c'était une conclusion qui nous enchantait. Même s'il était douloureux de maintenir les allègements fiscaux pour les riches pendant 2 ans, nous avions réussi à étendre les dégrèvements d'impôts pour les revenus bas et moyens tout en obtenant 212 milliards de dollars supplémentaires qui, injectés dans la relance économique, iraient aux Américains qui en avaient le plus besoin, une mesure que nous n'aurions jamais pu faire adopter indépendamment par une chambre à majorité républicaine. Quant aux tractations derrière cet accord, j'ai expliqué à Valérie que cette fenêtre de 2 ans représentait un pari entre les républicains et moi. Je misais sur le fait que, en novembre 2012, je sortirais réélu de la campagne électorale, et donc en position de force pour abroger ces allègements. De leur côté, les républicains pensaient qu'ils allaient me battre et que le nouveau président les aiderait à entériner les allègements Bush. Le fait que cet accord fasse reposer tant de choses sur l'issue de la prochaine présidentielle peut expliquer pourquoi il a tant scandalisé les commentateurs de gauche. Ces derniers m'ont accusé de m'être écrasé devant McConnell et Boehner et d'avoir été compromis par mes copains de Wall Street ainsi que par des conseillers comme Larry et Tim. Ils m'ont aussi averti que les exonérations de cotisations allaient grever le budget des allocations sociales, que les crédits d'impôt remboursables à destination des bas salaires se révéleraient éphémères et que les allègements Bush deviendraient permanents, comme les républicains le voulaient depuis le début. En d'autres termes, eux aussi pariaient sur ma défaite. Or, mi-décembre, la semaine où nous annoncions l'accord avec McConnell, il se trouve que Bill Clinton est venu déjeuner dans la salle à manger du bureau ovale. Les tensions qui avaient existé entre nous durant la campagne s'étaient alors pratiquement dissipées, et il me paraissait utile d'entendre les leçons qu'il avait tirées de sa défaite aux élections de mi-mandat en 1994, lorsque Newt Gingrich était devenu président de la Chambre. Nous avons discuté dans le détail de l'accord fiscal que je venais d'arracher, et Clinton s'est montré enthousiaste. Il faut que vous en parliez à nos amis, lui ai-je dit en faisant référence aux attaques de certains milieux démocrates. Je le ferai dès que j'en aurai l'occasion, a acquiescé Clinton. Cela m'a donné une idée. Et si vous en aviez l'occasion tout de suite? Sans lui laisser le temps de répondre, je suis allé dans le bureau de Katie et lui ai demandé de faire rameuter par le service de la communication tous les correspondants présents. Un quart d'heure plus tard, j'entrais dans la salle de presse de la Maison Blanche, accompagné par Bill Clinton. Après avoir expliqué aux journalistes étonnés qu'une mise en perspective de notre accord fiscal par la personne qui avait été à la manœuvre pendant une des périodes économiques les plus prospères que nous ayons connues pourrait leur être utile, j'ai cédé la place à Clinton. Avec son charme irrésistible et sa voix rauque, l'ancien président a plaidé la cause de notre compromis avec McConnell et s'est rapidement mis toute la salle dans la poche. À tel point que, peu après le début de notre conférence de presse improvisée, lorsque je me suis rappelé que j'avais un autre rendez-vous, Clinton paraissait tellement s'amuser que je n'ai pas eu le cœur de l'interrompre. Je me suis donc avancé vers le micro pour annoncer que je devais m'en aller, mais que le président Clinton restait. Un peu plus tard, j'ai demandé à Gibbs comment tout cela s'était passé. La presse a adoré, même si certains observateurs ont dit que vous vous rabaissiez en mettant Clinton en avant. Cela ne m'inquiétait pas trop. Je savais que Clinton était bien plus haut que moi dans les sondages à ce moment-là, notamment parce que la presse conservatrice, qui le descendait autrefois, trouvait à présent utile de l'opposer à moi, de le présenter comme le type de démocrate centriste et raisonnable avec qui les républicains pouvaient travailler. Son approbation allait nous aider à faire accepter notre accord par l'opinion et à étouffer dans l'œuf une éventuelle rébellion des parlementaires démocrates. Il y avait là une ironie à laquelle, comme tant de chefs d'État actuels, j'ai dû m'habituer. On a toujours l'air moins malin que l'ex-président qui commente depuis le banc de touche. Cette détente provisoire avec McConnell allait nous permettre de nous concentrer sur les autres points de ma liste. La loi de Michel sur l'alimentation avait déjà recueilli assez de soutien républicain pour passer début décembre sans trop de difficultés, même si Sarah Palin, désormais polémiste sur Fox News, accusait Michel de vouloir priver les parents américains de la liberté de nourrir leurs enfants comme bon leur semblait. En parallèle, la Maison-Blanche parachevait un texte sur la sécurité alimentaire qui serait soumis au vote plus tard dans le mois. La ratification du nouveau traité START s'est révélée plus délicate, non seulement parce qu'elle exigeait 67 voix et non 60, mais parce qu'il n'y avait rien à y gagner auprès de l'opinion. J'ai été obligé de tanner Harry Reid pour qu'il en fasse une question prioritaire, en lui expliquant que la crédibilité des États-Unis était en jeu, sans même parler de ma réputation auprès des autres dirigeants, et que cette ratification était essentielle pour faire appliquer des sanctions à l'Iran et inciter les autres pays à renforcer leurs mesures de sûreté nucléaire. Dès que Harry a consenti du bout des lèvres à soumettre le traité au vote, « Je ne sais pas où nous allons trouver le temps, monsieur le Président », a-t-il grommelé au téléphone, « mais si vous me dites que c'est important, je vais faire de mon mieux, d'accord ?» Nous nous sommes attelés à la collecte des votes républicains. L'approbation du traité par les chefs d'état-major allait nous y aider, de même que le soutien de mon vieil ami Dick Lugar, qui était encore vice-président de la Commission sénatoriale des affaires étrangères et voyait à raison dans le traité START la continuation de son travail antérieur sur la non-prolifération nucléaire. Malgré tout cela, pour satisfaire aux exigences du sénateur de l'Arizona, John Keel, j'ai dû m'engager, moyennant plusieurs milliards de dollars, à soutenir un plan pluriannuel de modernisation des infrastructures entourant notre arsenal nucléaire. Après avoir milité pendant tant d'années pour l'élimination de ces armes, et sachant tout ce que nous aurions pu faire avec cet argent, cette concession ressemblait à un pacte avec le diable, quand bien même les experts de la Maison-Blanche, qui étaient pour beaucoup des partisans du désarmement, m'assurait que notre arsenal vieillissant avait besoin d'être modernisé afin de réduire les risques d'accidents ou d'erreurs catastrophiques. Et lorsque le traité START a été adopté par le Sénat à 71 voix contre 26, j'ai poussé un grand soupir de soulagement.